Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique, avec Frédéric Simotel.
Allez, on va parler d'innovation pas loin d'ici, Paris-Saclay. C'était le Paris-Saclay Spring 2020, c'était mi-mai, et on reçoit ce soir alors l'organisateur, directeur du développement économique de l'EPA, établissement public
d'aménagement.
Ouais. Je cherchais le A tout d'un coup. Jérémy Hervé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Cinquième édition, alors il y en a une qui est un peu, évidemment on se doute, 2020, hein, qui est un peu passée sous les radars, mais voilà, c'est reparti de façon assez forte. On va reparler, hein, c'est plus de 2500 participants français, 750 représentants de start-up et PME innovantes. Voilà, il y a des chiffres qui sont assez enthousiasmants. Et puis on reçoit, alors il y avait 5 start-up primées, notamment dans les domaines qui sont la food tech, les mobilités, les technologies numériques, le green tech, la santé biotech. Alors on va en reparler, mais on va en parler d'une en particulier qui s'appelle Passway, et nous avons sa CEO, Susanna Stamirovska. Bonsoir, Susanna, merci d'être avec nous. Et pour toutes ces promotions, il y a un parrain. Et cette année, c'est David Quadduy. Bonsoir.
Bonsoir.
David, merci d'être avec nous, fondateur d'Ivalua. Ivalua, c'est cette licorne un peu méconnue. Faut être connu. Enfin, dans l'IT, on vous connaît, mais un peu moins. C'est vrai, quand on cite les licornes, on cite un peu tous les autres. Mais pourtant, belle licorne, hein, Ivalua. C'est aujourd'hui, David, je vous laisse en dire un mot.
Oui, d'Ivalua. Tout à fait. Donc, effectivement, on est une société dans l'édition de logiciels SaaS, et on gère les achats pour les grandes entreprises. Donc, c'est vrai que c'est un domaine un petit peu réservé.
Oui. Mais qui marche très bien,
pour principalement les grandes entreprises, que ce soit en France ou dans le monde, puisqu'on est implanté maintenant un peu partout dans le
J'allais
monde.
J'allais dire, le chiffre d'affaires France-Monde, voilà.
Chiffre d'affaires, l'an dernier, 130 millions de dollars.
Et le pourcentage, la répartition entre France et...
On est un peu plus gros maintenant aux États-Unis, ouais. En Amérique du Nord, l'Europe est juste derrière.
En tout cas, ça marche très bien. Alors, Jérémy Hervé, un mot sur l'EPA, donc l'établissement public Paris-Saclay, ce que ça représente un peu en chiffres, et puis voilà, parce que c'est avec tout ce que vous avez là, il y a l'école polytechnique, il y a Agritech, enfin voilà, il y a tous ces télécoms Paris-Tech, enfin, ils sont tous là. On reparlera, tiens, on dira un mot du transport, parce que pour aller là-bas, c'est toujours la galère. Mais voilà, qu'est-ce que ça représente? C'est un vrai pôle, c'est un peu un bout de notre Silicon Valley quelque part.
Tout à fait. Paris-Saclay, c'est la construction d'un pôle scientifique et technologique de rang mondial. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être passés pour parvenir à cet objectif, mais je pense qu'on est en bonne voie d'y parvenir, hein, puisque l'université Paris-Saclay se classe 13e mondiale, toutes disciplines confondues, première mondiale en mathématiques devant Princeton, donc oui. Premier mondial en mathématiques, ça veut dire premier en algorithme, donc ça nous ouvre pas mal de disciplines, voilà. Et puis effectivement, l'Institut Polytechnique de Paris, 65 000 étudiants et un campus pour les accueillir tous, le campus urbain de Paris-Saclay.
Et puis on lance un appel, moi je relance l'appel pour le transport, parce que je trouve que voilà,
c'est une des deux étapes indispensables. Il y avait la création des pôles académiques, et puis il y a la création d'une nouvelle ligne de transport, donc ce sera la ligne 18 du Grand Paris Express. Si vous venez, vous verrez que les piliers sont déjà en construction.
Ça y est.
Elle sera en service en septembre 2026, et on sera raccroché à Paris en moins de 25 minutes.
Parce que pour moi, vous cachez, j'y étais allé récemment en scooter, c'est dans la pampa. Hein.
Il faut revenir.
Mais bon, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Alors justement, le but 12-13 mai, c'était la cinquième édition, le Paris-Saclay Spring 2022. Le but, c'est de faire concours. Comment ça se passe? On a tout un tas de start-up qui viennent pitcher. Alors déjà, ils pitchent devant qui? Et comment s'est fait la sélection de ces start-up?
Oui, alors il y a deux grands objectifs à cet événement, qui est un événement d'attractivité internationale. Le premier, c'est donner envie à des entreprises qui ne sont pas à Paris-Saclay de nous rejoindre et de venir faire de la R&D avec nous. Donc d'ajouter à cette émulation, à cette communauté d'innovation. Le deuxième, c'est de donner de la visibilité à nos startups, dont vous avez un très bel exemple aujourd'hui, puisque on génère entre 100 et 150 nouvelles startups par an à Paris-Saclay, hein, fort de ces deux pôles académiques, et puis des organismes nationaux de recherche en plus, comme le CEA, le CEA List, l'INSERM, le CNRS, qui sont tous également là-bas, l'INRIA. Et donc, on génère 100 à 150 startups. Et pour les mettre en valeur, on a notamment ce grand événement annuel. Cette année, 2500 participants. Toujours 5 catégories pour le pitch contest, hein, dans lequel s'affrontent les startups, qui représentent nos 5 grandes filières industrielles d'excellence en R&D à Paris-Saclay. Et puis, à la fin, il n'y en avait plus que 5 qui sont lauréats, dont Pathway, qui est avec nous ce soir.
Donc, Pathway, Susanna, créé en 2020 par des étudiantes issues de l'école polytechnique, l'ENSAE, HEC. Alors, on est dans la data. Alors, évidemment, tiens, c'est comme par hasard, il y a un parrain qui est beaucoup aussi dans la data. Alors, racontez-nous ce que fait Pathway, Susanna.
Oui, et des professeurs, en fait. Donc, on a un des professeurs d'Elix qui est un des cofondateurs. Donc, vous vous souvenez du blocage du canal de Suez?
Oui. Voilà, avec donc, ce immense bateau qui était mis en travers.
Il était bloqué pour 6 jours et ça coûtait 2 milliards de dollars en fait, à l'économie mondiale. Donc les données de base en fait, pour pouvoir analyser et répondre à la situation étaient là, disponibles. Mais il n'y avait pas de système pour les traiter et répondre dans l'instantané. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on a mis du machine learning à l'intérieur de la base de données pour pouvoir traiter les données et donner du sens au chaos qui se produit, par exemple, dans la disruption des supply chains et de transport, pour permettre aux sociétés de répondre rapidement à ces changements.
C'est-à-dire, si on reprend cet exemple, donc, on se souvient, c'est ce super porte-conteneur qui s'était mis en travers. On s'était rendu compte tout d'un coup que tout pouvait s'arrêter si le canal de Suez était bloqué. Et vous dites, si on avait su analyser toute la data que l'on avait là entre le nombre de bateaux qui attendaient, tout ce qui peut graviter autour de tout ça, on aurait pu éviter ce qu'on a eu là. C'était un vrai blocage. Et puis derrière, on était déjà pas bien avec la crise sanitaire. Enfin, il y avait tous ces sujets-là qui bloquaient déjà pas mal la logistique mondiale. Et vous avez ce moteur qui analyse donc toutes ces datas.
Et qui permet à tirer vraiment des conclusions, des insights qui sont utilisés pour le business, mais directement à partir de la base de données. Donc c'est la personne du business qui peut poser la question auprès de la base de données, sans faire des grandes pipelines de traitement de données, de mettre des data scientists qui doivent vraiment traiter les données pendant très longtemps. On n'a pas de réponse en 3 mois ou 6 mois de projet. C'est direct. Donc c'est la différence.
La data. Alors c'est le parrain de la... Là par contre, David Coduit, c'est le parrain de la...
De la promotion.
Voilà, c'est pas un par un par par start-up. Et justement, cette data, aujourd'hui, si on se replonge dans l'édition numéro 1, enfin, David, comment vous avez vu tout ça changer, là, cette innovation, notamment issue notamment de Paris-Saclay?
Ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a une très grande effervescence. Il y a eu vraiment énormément de dossiers, plus de 130 dossiers qui ont été déposés. Donc la qualité des dossiers qui ont été retenus est excellente. Et donc les entreprises awardées.
Le plus dur, c'était de sélectionner, d'arriver à la fin. Hein.
Et alors moi, je vois deux thèmes qui ressortent quand même beaucoup. La data, c'est vrai. On voit que même si c'est des entreprises qui sont dans des domaines, la food ou d'autres types de domaines, on voit que la data est au cœur quand même des choses. Et le deuxième sujet que je vois beaucoup, c'est de prendre en compte les problèmes environnementaux et de développement durable. Voilà. Et ça, c'est un thème qu'on ressent beaucoup dans toutes les startups, enfin pas toutes, mais une grande partie, qui est vraiment prépondérant.
David, on voit ces deux tendances, la forte qui ressortent autour de la data, alors avec tous les métiers que ça engendre derrière. Est-ce qu'on n'a pas le défaut, mais nous les premiers, hein, les médias, à parler, quand on veut parler des startups, c'est de un peu trop parler des levées de fonds et pas assez justement des usages. On prend l'usage un super tanker qui s'échoue, une supply chain qui cafouille, et dans l'usage, dans ce que ça a apporté comme bénéfice, on l'oublie un peu parfois. Mais alors là, je tire un peu sur notre paroisse.
Ça fait partie de mes convictions aussi, c'est qu'effectivement, au bout du compte, ce qui va faire la réussite d'une société, ce sera pas ses levées de fonds, ça y contribue, mais c'est vraiment la valeur qu'elle délivre à l'ensemble de ses clients, quoi. Donc il faut que ce qui est créé, que ce soit un produit, que ce soit un service, qu'il y ait un vrai différenciant. Et c'est ça qui va faire l'accélération de la société. C'est pas juste la levée de fonds.
Susanna, c'est comme ça que vous voyez, quand vous voyez, alors évidemment, on vous souhaite de belles levées de fonds pour encore accélérer à la fois le développement de l'entreprise, le développement de la technologie. Mais justement, lever beaucoup d'argent n'est pas forcément une fin en soi au départ.
Tout à fait. En fait, on a fait ce choix déjà de se lancer en aventure. On l'avait fait pour changer le monde. On l'avait pas fait déjà, pour faire des levées de fonds. Donc, commençons par ça. Et on s'est rendu compte qu'il y a plein de techs qui est un peu perdu sur l'optimisation des, par exemple, des pubs. Mm-hmm. Alors qu'on peut le dépenser pour vraiment répondre aux enjeux environnementaux, aux enjeux de la supply chain. Donc,
c'est vrai qu'on oublie un peu vite parfois que beaucoup d'argent de ces levées de fonds repartent chez qui? Repartent chez les Google, notamment pour acheter de la pub et du référencement, repartent chez les acteurs du cloud aussi, donc voilà, ça nourrit un peu tout ça, enfin il y a un cercle un peu vicieux de ce côté-là. Est-ce que le but aussi, Jérémy Hervé, de ce Paris-Saclay Spring, c'est de faire le lien aussi avec ces grandes entreprises, ces startups? Alors il y a l'une des startups primées, c'est une spin-off de Danone,
exactement, Papcott,
voilà, exactement, qui est dans la, alors ça doit être dans la partie
en fait ils ont développé une technologie d'emballage recyclable, voilà, en base de papier et de céramique, mmh, qui est appelé à remplacer les emballages plastiques à usage unique.
Parce que, et alors, le but, c'est ça aussi, c'est donner la visibilité, mais créer ce lien, parce que souvent,
bien sûr,
on a encore du mal, bien qu'on le répète à chaque fois, on a encore du mal à faire ce lien entre grandes entreprises et...
Bien sûr.
Au-delà du rapport client-fournisseur.
C'est pas uniquement de faire des levées de fonds, c'est aussi de trouver des courants d'affaires, des débouchés commerciaux, des partenaires commerciaux, parce qu'une start-up, elle peut déjà vendre des produits, elle peut aussi vouloir continuer à développer et inventer d'autres solutions. Donc, trouver aussi des partenaires à la fois industriels, mais ça peut être aussi des partenaires dans la recherche académique, hein, parce que Spring permet aussi de mettre en valeur l'offre de recherche publique. Et à Paris-Saclay, on est plutôt bien pourvu. On a 320 laboratoires de recherche publique, autant d'équipes derrière. Donc, c'est évidemment cette mise en relation, le cœur du sujet à Paris-Saclay Spring, mais à Paris-Saclay en général, c'est pouvoir se frotter au carrefour des différentes disciplines, sortir un peu de sa zone de confort, faire du multidisciplinaire et travailler avec les autres.
Susanna, c'est ce qu'on essaie de chercher aussi quand on est avec Passway. On travaille sur la data, c'est aller voir. Je crois que vous travaillez déjà avec le groupe La Poste, avec DB Schenker. Voilà, c'est d'aller chercher aussi ces grands groupes qui vont porter un peu, qui vont vous apporter déjà de la crédibilité, mais porter aussi, pourquoi pas, l'offre pour La Poste, groupe français, mais enfin qui est quand même présent à l'international, ou DB Schenker, enfin voilà, ça participe à l'accompagnement.
Oui, tout à fait. Donc par exemple, maintenant on va participer à VivaTech, on sera là avec La Poste, et on a la chance d'être vraiment très soutenu par nos clients qui voient la.
Donc il faut avoir ce mariage quand même à un moment, enfin ce mariage, ce lien.
Parce que, en fait, si on a la chance d'avoir le market fit et de produire quelque chose qui résout un problème, ça vient assez vite, d'après ce qu'on a pu voir.
Et puis, important aussi, David, c'est le rayonnement à l'international. Je crois que si on prend l'exemple d'Ivalua, ça apporte de la crédibilité. Il n'y a pas seulement d'aller chercher des clients étrangers, mais un client français qui va voir que vous êtes présent aux États-Unis, que vous êtes présent dans d'autres pays, va se dire, tiens, c'est que il y a quelque chose derrière. Oui.
Oui, ça fait partie des étapes pas évidentes, forcément, mais qui sont importantes dans le développement. Et à bout d'un moment, il faut passer à l'international pour avoir un marché grand et important.
Vous l'avez senti avec Ivalua, c'est le jour où... Parce que vous étiez parti vous-même vous installer là-bas.
Parti. Nous, on a mis un peu de temps, parce qu'on a démarré en 2000. On a mis 11 ans, le temps de vraiment
de mûrir.
Mûrir le produit, le marché, voir que ça marchait bien en France. Mm-hmm. Et puis à un moment, on s'est dit, on n'a pas le choix, nos concurrents sont américains, il faut qu'on aille attaquer le marché américain. Ce qu'on a fait, c'était un vrai challenge, mais ça a payé, ça a payé.
Jérémy Hervé, pour ce Paris-Saclay Spring, il y a aussi une volonté d'avoir cette visibilité à l'international. Je crois qu'aujourd'hui, Paris-Saclay est bien connu à l'international, enfin, des investisseurs, des industriels, mais le but, c'est montrer aussi, c'est un réservoir à start-up aussi.
Oui, alors c'est vrai que la marque Paris-Saclay commence à être bien reconnue à l'international, à la fois sur l'offre académique, à la fois sur la qualité des start-up et de nos entreprises plus généralement qui innovent à Paris-Saclay. Et sur Spring, effectivement, on essaie d'avoir un maximum de participants internationaux et notamment de structurer vraiment un club d'investisseurs, pas seulement français, mais véritablement international, pour permettre des envolées comme celle d'Ivalua et je l'espère, de Pathway.
C'est quoi les deux, trois clés, David, pour passer d'une belle PME, vous avez dit 11 ans, c'est vrai qu'il faut asseoir tout ça, à devenir une véritable ETI, et puis voilà, aller sur des enjeux internationaux, des enjeux technologiques, pouvoir aussi jouer son poids face à ses clients, face à des partenaires.
Moi, de mon expérience, je pense qu'à un moment donné, quand on va sur un autre marché important, il faut un peu y aller en personne. C'est-à-dire que, voilà, vous avez dit, j'y suis allé avec la famille. Voilà, on a pris
donc,
il faut
faire confiance à l'équipe sur place et se dire, allez.
Voilà, il y a aussi Daniel Amzalag, un des autres fondateurs, qui a été un peu avant. Et on est resté 8 ans. Donc, à un moment donné, si on veut se donner les chances, il faut être sur place parce que c'est très dur d'envoyer quelqu'un qui n'a pas l'ADN de la création de l'entreprise, enfin, de ce qu'est l'entreprise.
De sentir un peu, parce qu'il y a quand même
Et puis, les cultures sont tellement différentes, la manière de fonctionner est différente dans chacun des pays. Pour comprendre ça, il faut être sur place, en fait.
Susanna, on profite de vous avoir aussi parce qu'on a un gros souci dans la tech. Alors certes, on manque encore d'ingénieurs. Alors Paris-Saclay est un gros erreur, mais on manque d'ingénieurs ES, de femmes. Comment faire pour que davantage de femmes viennent dans cet univers de la tech, de la data, de la food tech, de la santé biotech? On a regardé, hein, si je reprends les licornes, dans la BFM Awards en novembre, on fait venir les 25 licornes, une femme.
Comment faire ? C'est malheureux. Bon, je pense que c'est surtout en créant vraiment des modèles qu'on peut suivre. Après, nous, on a pas mal de candidates qui sont des candidates.
Oui.
On a des femmes qui postulent puisqu'elles se sentent plus à l'aise de candidater dans des boîtes où il y a des femmes qui dirigent. Donc, ça peut être aussi dans nos choix, en fait, quand on crée...
Vous pensez qu'il y a encore une ou deux générations et on va arriver peu à peu
Je pense que oui. Je pense que c'est possible, mais ça veut dire qu'il faut faire quand même un effort de choisir des femmes, donner la chance aux femmes, donner la voix aux femmes aussi. Parce que c'est pas évident, des fois dans le rendez-vous, des femmes auront peut-être des comportements différents. Donc leur donner la voix et peut-être la renforcer, ça peut aider, certainement.
David, sur ce sujet de diversité.
Absolument d'accord, c'est pas évident, surtout dans la technologie, mais il faut pousser ça, il faut ouvrir le plus possible et donner la voix, exactement.
Jérémy, vous pensez, oui, évidemment.
Évidemment, on y tient absolument sur l'événement et de manière générale.
Et vous essayez de forcer un peu, parce qu'il y a un moment, il faut aussi se forcer.
Il faut le faire, on le fait sur l'événement Spring, on essaie d'avoir une parité la plus parfaite possible sur la totalité de la programmation des conférences de la journée, par exemple, dans la composition du jury également, des jurys qui sélectionnent, enfin qui jugent les pitch contests, on essaie d'avoir la parité homme-femme sur la totalité des jurys. Alors on n'y arrive pas toujours, mais on s'efforce vraiment de le faire le plus possible. Et je rappelle que la présidente de l'université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau, est une femme.
Ne l'oublions pas.
Et voilà.
Allez, merci à tous les trois. Jérémy Hervé, donc directeur du département du développement économique de l'EPA Paris-Saclay. David Cuaduif, donc fondateur d'Ivalua. On espère vous revoir très bientôt ici pour nous raconter encore à nouveau l'aventure d'Ivalua. Et puis Susanna Stamirovska, CEO de Passway. Bravo. On va se féliciter aussi des autres. C'est Circle Egg, Papcot. What Anywhere et Kimialis, voilà. Exactement. Pour être très complet avec Passway. Merci pour les 5 lauréats de ce Paris Saclay Spring 2022. C'était mi-mai. Allez, tout de suite, le journal de l'écho avec Stéphanie Collot. On a pris un petit peu de retard.